Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre étude très importante, le complot meurtrier contre Jésus. Le complot meurtrier contre Jésus. Nous arrivons à l'étude numéro 2. Et nous prendrons notre premier verset dans Saint Matthieu, chapitre 26, verset 18. Le maître dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque avec mes disciples. J'aimerais vous demander, comme souvent, il y a un certain nombre de citations bibliques, cela est important pour que vous puissiez constater que vraiment, on ne vous raconte pas n'importe quoi, mais que tout est puisé dans le Saint-Livre, la Sainte Bible. Alors je vous prie de noter, si vous pouvez, quelques citations bibliques que vous entendrez pour contrôler simplement dans vos Bibles, et que ça puisse vous rassurer. Donc, nous arrivons à la dernière Pâque. La Pâque est la première fête du calendrier juif, et elle se tient chaque année le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Notez Lévitique, chapitre 23, verset 5. À l'époque de Jésus, toutes les familles d'Israël commémorent en sacrifice ce jour-là un agneau immaculé. C'est donc la délivrance de la nation, de sa captivité en Égypte, on se souvient. Chez les Juifs, cette fête correspond également au plus ancien des jours saints, soit à la toute première Pâque que les Israélites ont célébré la veille de leur sortie d'Égypte. La Pâque est donc immédiatement suivie de la fête des pains sans levain, selon le Lévitique chapitre 23 verset 6, qui dure alors une semaine entière, donnant ensemble une période de festivité de 8 jours. Les deux fêtes étant si étroitement liées, on désigne parfois la période des 8 jours comme étant la Pâque et parfois comme la fête des pains sans levain. Donc, tout cela est adopté dans le langage courant du Nouveau Testament. Par contre, techniquement parlant, la Pâque correspond au 14 Nissan, le premier mois du calendrier juif, et la fête des pains sans levain aux 7 autres jours de festivités qui prennent fin le 21 Nissan. Donc, 4 jours avant la Pâque, soit le 10 Nissan, chaque famille d'Israël doit se choisir un agneau sacrificiel immaculé et le mettre à l'écart du troupeau jusqu'à la fête pascale. Cette fête où il sera immolé selon Exode, chapitre 12, versets 3 à 6. Il ne fait aucun doute, d'ailleurs, que le lundi de la dernière semaine avant sa crucifixion, Jésus a lui aussi sélectionné un agneau avec ses disciples. Toutefois, les Juifs du temps de Jésus ont 2 façons différentes d'établir leur calendrier, ce qui contribue à amoindrir le problème. C'est que, On peut dire que les pharisiens, ainsi que les juifs de la Galilée et des districts septentrionaux d'Israël, comptent le jour d'un lever du soleil au suivant. Alors, par contre, les Sadducéens, ainsi que les gens de Jérusalem et les districts avoisinants, calculent les leurs d'un coucher du soleil au suivant. Autrement dit, chez les Galiléens, le 14 Nissan tombe donc un jeudi, tandis que chez les habitants de Jérusalem, il tombe un vendredi. Disposons ainsi de deux périodes de 2 heures, réparties sur 2 jours consécutifs. Les sacrificateurs voient donc ainsi leur tâche quelquefois un peu facilitée. Ils peuvent donc immoler la moitié de l'agneau le jeudi, hein, et l'autre moitié le lendemain. Cette entorse, on peut dire chronologique, elle explique pourquoi Jésus et ses disciples, tous des Galiléens sauf Judas, prendront le repas pascal un jeudi soir dans la chambre haute, alors que Jean, l'évangile de Jean chapitre 18 verset 28, indique très clairement que les chefs religieux, tous des résidents de Jérusalem, n'auront pas encore célébré la Pâque le lendemain. Le lendemain, lorsque on amènera Jésus au prétoire pour y être traduit en justice. Voilà donc qui explique également le pourquoi. Pourquoi Saint Jean, chapitre 19, verset 14, indique très clairement que le procès et la crucifixion de Jésus auront lieu le jour de la préparation de la Pâque. N'empêche que la quantité de sang provenant de tous ces sacrifices est énorme. On laisse alors couler le sang le long de la pente orientale abrupte de la colline du Temple jusque dans la vallée du Cédron, dont il colore le ruisseau d'un rouge écarlate pendant plusieurs jours, rappelant ainsi visuellement l'horrible prix du péché. Bien entendu, tout ce sang et tous ces animaux ne permettent pas réellement d'expier les péchés, on l'a bien compris, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Notez Hébreux chapitre 10, verset 4. Les agneaux ne font que symboliser le sacrifice expiatoire parfait que Dieu lui-même est alors sur le point d'offrir. Et voilà d'ailleurs pourquoi Jean-Baptiste a regardé au-delà des sacrifices d'animaux pour contempler le véritable, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui lui ôte le péché du monde. Saint Jean chapitre 1 verset 29. C'était une prophétie qui est ici prête à être relevée dans toute sa signification. Donc, tôt ce jeudi, les disciples commencent à préparer le repas pascal. Le premier jour des pains sans levain ici. Matthieu emploie l'expression courante qui englobe les deux grandes fêtes. Et les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Saint Matthieu chapitre 26 verset 17. Il suffit de lire le récit de Saint Matthieu pour comprendre très clairement que Jésus a déjà pris plusieurs arrangements pour la soirée. Compte tenu du grand nombre d'Israélites en visite annuelle à Jérusalem pour la fête, il arrive donc souvent que les habitants de la capitale libèrent une pièce où les pèlerins pourront partager dans l'intimité le repas pascal entre amis et en famille. Or, il est évident que Jésus s'est déjà assuré pour lui-même et pour ses disciples l'utilisation d'une telle pièce, donc, c'est-à-dire une chambre haute, qui leur est probablement prêtée par quelqu'un que Jésus connaît très bien et qui croit en lui, mais que les disciples ne connaissent peut-être pas. Aucun évangile n'en précise du reste le nom. De toute manière, il est très clair que Jésus s'est entendu secrètement avec cet homme afin qu'on ne sache pas à l'avance, écoutez bien pourquoi, qu'on ne sache pas à l'avance où il se trouvera ce soir-là avec les disciples. Car si Judas avait connu d'avance le lieu de la Sainte Cène, eh bien il aurait pu facilement dire au Sanhédrin où il pourrait trouver Jésus. Mais il était donc nécessaire, conformément au plan de Dieu, que Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples avant d'être trahi. Donc, maintes préparatives doivent donc être faites. Il y a des préparatives qui doivent absolument être réalisées. En plus de faire immoler l'agneau au temple et de le ramener pour le faire rôtir, il faut encore penser aux autres éléments importants du repas pascal, tels que le pain sans levain, le vin et le plat d'herbes amères. Quelques-uns des disciples se partagent donc la responsabilité de préparer ces éléments. Et quant à la préparation de la pièce et de la table, c'est à un des serviteurs du propriétaire de la chambre haute qu'elle a été confiée. Voici donc ce que Jésus leur dit exactement. Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Saint Matthieu chapitre 26, verset 18. Selon Saint Marc chapitre 14, verset 13, et notez Saint Luc chapitre 22, verset 10, Jésus les informe que l'homme qu'ils suivront portera une cruche d'eau. C'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 26, verset 18. Or, comme ce sont alors normalement les femmes qui portent l'eau, l'homme en question sera donc facile à identifier. Jésus, qui connaît toutes choses, selon Jean, chapitre 16, verset 30, c'est exactement où ils pourront trouver le porteur d'eau. Et cela est encore une preuve de ce qu'il contrôle souverainement tous ces événements. Notez maintenant Saint Luc chapitre 22 verset 8 qui nous indique que ce sont précisément l'apôtre Pierre et Jean qui sont spécialement désignés pour trouver l'homme et contribuer à la préparation de la chambre haute. Selon Saint Marc, ils doivent retracer l'homme, le suivre jusque chez lui, puis rapporter les paroles de Jésus au propriétaire de la maison. Là, ils trouveront une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est Marc chapitre 14, verset 15. Et c'est là où ils feront ce que Jésus leur a ordonné et ils prépareront la Pâque. C'est Matthieu chapitre 26, verset 19. Les paroles de Jésus, ces paroles revêtent une signification très profonde. Écoutez bien, « Mon temps est proche », a dit Jésus. Et ensuite il dit, « Je ferai la Pâque », verset 18 de Saint Matthieu, chapitre 26. À plusieurs reprises déjà, Pierre et Jean l'ont entendu dire, « Mon temps n'est pas encore venu », Saint Jean chapitre 7, verset 6, ou des paroles du même genre. Ainsi, son heure approche, celle pour laquelle il est venu dans le monde. Ce fait qu'il précise à Pierre et à Jean, il sait donc qu'il ne lui reste qu'une soirée à passer avec ses disciples. Et il souhaite de pouvoir la passer en célébrant la Pâque. Notons que dans le grec, l'expression ici traduite par « je ferai la Pâque » est employée au présent pour désigner un événement à venir littéralement « je fais la Pâque ». Ce faisant, il souligne l'inviolabilité absolue du plan divinement orchestré. Il est donc vital pour Jésus-Christ de célébrer cette dernière Pâque. Plus tard en soirée, il dira aux disciples, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Saint Luc chapitre 22, versets 15 et 16. Les événements de ce soir-là aboutiront à tout ce que les Pâques antérieures auront préfiguré. Le véritable agneau de Dieu sera crucifié sous peu. Ce dernier repas pascal est donc riche en signification, plus que tout autre repas pascal jamais partagé chez la plus pieuse des familles juives. Les évangiles passent sous silence tous les autres événements de ce jour-là antérieurs au repas pascal. Il se peut que Jésus ait passé la journée absolument seul, seul en prière, avec son Père bien-aimé, tandis que les disciples préparaient la Pâque. Peu importe les activités qui ont rempli la journée, Jésus et ses disciples se rencontrent absolument à l'heure convenue, pour se rendre à la chambre haute où tout est absolument prêt. L'apôtre Jean rapporte en détail sur plusieurs chapitres, notez Saint Jean, chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, le discours que Jésus donnera ce soir-là. Matthieu, passe donc maintenant directement à la scène de la chambre haute où se déroule le repas pascal. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 20. Nous sommes donc le jeudi, il est 18h passées et tous se mettent à table. Notons que le verbe grec traduit par « se mit » et « anakraimai » qui signifie également « s'allonger ». C'est que à l'époque, ce genre de repas se sert très souvent sur une table basse autour de laquelle les convives s'allongent pour manger. D'après Saint Jean, Christ et les disciples mangent allongés puisque la tête de Jean, le disciple bien-aimé, est tout à côté de la poitrine de Jésus, selon Saint Jean chapitre 21, verset 20. Voilà donc qui contraste violemment avec la première Pâque qu'on a mangé debout et à la hâte, les reins sains pour le voyage, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Exode chapitre 12, verset 11. Cette fois-là, les Israélites se préparaient à fuir la terrible Égypte. Par contre, ici, aucune fuite n'est prévue. Jésus-Christ se rendra de la chambre haute au jardin où on le livrera à ses meurtriers. Donc, son heure approche rapidement. Le repas de la Pâque se déroule selon un rituel bien établi. D'abord, on distribue une coupe de vin, la première des 4 coupes qu'on se partagera au cours du repas. Chaque convive prend donc une gorgée de la coupe commune. Avant que la coupe fasse le tour, Jésus rend grâce, selon Saint Luc chapitre 22, verset 17. Une fois la première coupe passée, on procède à un lavement cérémonial symbolisant la nécessité d'une purification morale et spirituelle. Or, il semble que ce soit lors de ce lavement que s'élève une contestation où ils disent lequel d'entre nous, tes disciples, doit être estimé le plus grand. Saint Luc chapitre 22, verset 24. Alors Jésus, il se lève de table, il ôte ses vêtements et il prend un linge dont il se ceint. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il est ceint. Saint Jean, chapitre 13, versets 4 et 5. Endossant le rôle du plus humble des serviteurs, Jésus transforme ainsi le rituel du lavement en une leçon frappante d'humilité ainsi que de sainteté véritable. C'est que le lavement, l'extérieur, ne vaut absolument rien Si le cœur, c'est-à-dire l'intérieur, est souillé et reste souillé, et l'orgueil prouve évidemment, hors de tout doute, que le cœur doit vraiment être purifié. Christ Jésus a d'ailleurs servi cette leçon aux pharisiens dans Saint Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28. Mais ici, il lave les pieds des disciples, démontrant ainsi que même les croyants dont le cœur est régénéré doivent périodiquement se purifier des souillures extérieures du monde. Son geste est donc un exemple d'humilité véritable. Le lavement des pieds est alors typiquement réservé au moindre des esclaves. Normalement, dans une salle de banquet de ce genre, on retient les services d'une personne qui sera chargée de laver les pieds des invités à leur arrivée. Le fait d'omettre cet égard serait du reste taxé de grossière incivilité. Notez Saint-Luc, chapitre 7, verset 44. Voyez-vous, tout se trouve dans le Saint-Livre où vous pouvez contrôler vous-même de la véracité de tous ces faits. Les routes non pavées de Jérusalem et des environs étant poussiéreuses et boueuses, il est évidemment nécessaire de laver les pieds des convives. Mais Jésus et les disciples n'ont manifestement trouvé aucun serviteur pour accomplir cette tâche à leur arrivée dans la chambre haute. Donc plutôt que de s'abaisser à se laver les pieds les uns les autres, les disciples ont tout simplement décidé de rester les pieds sales. Or, par son geste, Jésus-Christ, s'abaisse de manière très touchante. D'une part, on peut dire, et il réprimande subtilement les disciples, d'autre part, notez Saint Jean chapitre 13, versets 6 à 9. Ce geste démontre également le type d'humilité que Jésus souhaite trouver chez tous les chrétiens. Notez verset 15 et Saint Luc chapitre 22 versets 25 et 26. Après le lavement cérémonial, le repas pascal se poursuit avec la consommation des herbes amères. Notez Exode chapitre 12, verset 8. Il s'agit là d'un mélange de persil, de chicorée et de légumes à feuilles du même genre. La prêté des herbes évoque la dureté de la captivité d'Israël en Égypte. Les herbes se mangent avec des morceaux de pain sans levain qu'on trempe tout simplement dans une sorte de condiment appelé carossette, confectionné à base de grenades, de pommes, de dattes, de figues et de raisins secs qui sont macérés dans du vinaigre. Le carossette rappelle donc le mortier que avaient employé alors les maçons, ce qui rappelle aussi l'esclavage en Égypte, où les Israélites fabriquaient des briques. Ensuite, par la suite, on va servir l'agneau rôti. Le chef de maison va se laver encore rituellement les mains avant de rompre le pain sans levain et d'en distribuer des morceaux à chaque hôte qu'il mangera avec l'agneau. C'est probablement ici, vers le début du repas, lors de la consommation de l'agneau, que Jésus laissera tomber en disant « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » C'est Matthieu, chapitre 26, verset 21. À plusieurs reprises déjà, il a prédit sa propre mort. Mais c'est la première fois qu'il parle de se faire trahir par un de ses propres disciples. On ne peut que imaginer combien cette révélation doit jeter un froid sur ce qui se présente comme une occasion de réjouissance. Notez que le verbe « livrera » vient du grec qui évoque le fait de livrer un prisonnier en vue de son châtiment. Il s'agit donc du même verbe que dans Saint Matthieu chapitre 4 verset 12 où Jean-Baptiste s'est fait jeter en prison. Or, pour la plupart des disciples, la seule pensée que Jésus puisse être livré à ses ennemis par l'un d'entre eux est absolument inimaginable. Pourtant, chacun sait très pertinemment que son propre cœur est capable. Nous sommes capable d'une telle trahison. Oh, je le dis aussi pour moi. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Saint Matthieu, chapitre 26, verset 22. Ne disant rien pour apaiser leurs craintes, mais soulignons l'atrocité de la trahison, de cette terrible trahison qui va se produire sous peu, Jésus répond, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Verset 23. Dans un des psaumes, le roi David décrit d'ailleurs parfaitement bien toute la perversité que suppose un geste aussi hypocrite et traître. Notez le psaume 55, versets 13 à 15. C'est très intéressant. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais être mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Psaume 55, versets 13 à 15. Ce cher David s'est plaint également. S'est plaint de la sorte au sujet, rappelez-vous, de Achitophel, son conseiller intime, qui s'est ligué contre lui avec Absalom. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait toute ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon maintenant contre moi. Psaume 41, verset 10. Selon Saint Jean, chapitre 13, verset 18, Jésus, il cite le psaume 41, verset 10, ce soir-là, dans la chambre haute, indiquant que le psaume possède une signification messianique qui est maintenant sur le point de se concrétiser. Pardon. La trahison de Jésus-Christ, comme tous les autres éléments du drame de la crucifixion, s'inscrit dans le plan de rédemption éternelle de Dieu. Un fait que Jésus reconnaît ainsi quand il dit « Le Fils de l'homme s'en va » selon ce qui est écrit de lui, Saint Matthieu 26, verset 24. Dieu envisage de se servir de la traîtrise de Judas pour apporter la rédemption à d'innombrables multitudes. La traîtrise en soi n'en demeure pas moins répréhensible. C'est seulement que Dieu s'en sert pour réaliser ses propres desseins parfaitement saints. Or, le fait que les desseins souverains de Dieu sont toujours bons, cela ne signifie en rien les mauvaises intentions de Judas. Contrairement à ce que certains suggèrent, Judas, on peut bien le dire, c'est vraiment un démon. Et il est un démon de son propre gré. Saint Jean, chapitre 6, verset 70. Et non pas un saint à contre-cœur. Il a, Judas, la condamnation éternelle pour destinée. Une absolue vérité que Jésus-Christ a également souligné. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, est-il dit, car mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne soit jamais né. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 24. C'est très, très sérieux tout cela. À part Judas, les 11 autres disciples sont consternés à l'idée qu'un des leurs puisse commettre un acte aussi sinistre. On remarquera tout de même un fait intéressant. Ils n'ont pas pour réflexe de pointer qui que ce soit du doigt, mais de s'examiner eux-mêmes. Comme Jésus vient tout juste de les réprimander pour n'avoir pas eu l'humilité de se laver les pieds les uns les autres, ils sont indubitablement encore en train de réfléchir à leur penchant pour le péché. Mais déjà, ils sont confrontés à une perspective encore bien plus troublante. C'est-à-dire qu'il y a un traître parmi ce cercle très uni d'hommes qui se font implicitement confiance. Chacun fait donc un examen de conscience et, se sachant enclin à pécher, interroge Jésus avec inquiétude « Est-ce peut-être moi ?» Chacun se demande probablement s'il pourrait involontairement nuire au Seigneur ou même dévoiler à ses ennemis où on pourrait le trouver. Jouons la comédie jusqu'à toute fin. Judas entonne avec le groupe « Est-ce peut-être moi, Rabbi ?» C'est Matthieu chapitre 26, verset 25. Quel culot! Est-ce peut-être moi, Rabbi? Notons que l'expression grecque dénote une fausse incrédulité qu'une autre version rend beaucoup plus exacte, où il est dit « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Ça, c'est la Bible du semeur. « Maître, c'est tout de même pas moi, n'est-ce pas ?» Alors Jésus se contente de répondre « Tu l'as dit, verset 25. » Cette réponse, Jésus la prononce manifestement tout bas, juste pour que Judas puisse l'entendre, à moins que les autres disciples n'en saisissent pas le sens. Puisque l'apôtre Jean, lui, qui s'est penché sur Jésus, ne réagit pas, même si ensuite l'apôtre Pierre lui a pourtant fait signe de demander à Jésus de qui il parle vraiment. Alors notez Saint Jean chapitre 13, versets 23 à 26. Un des disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce ?» Jésus répond « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Saint Jean, chapitre 13, versets 23 à 26. Apparemment, même cet échange est murmuré tout bas, car aucun des autres disciples ne semble réaliser que Christ est en train de dire que c'est Judas le traître. Comme Jésus dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le promptement », verset 27. Jean précise ainsi, « Mais aucun de ceux qui était à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient, comme Judas avait la bourse, eh bien Jésus voulait dire simplement « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », versets 28 et 29. Jean mentionne également qu'après que Judas a pris le morceau de pain que lui a tendu Jésus, Satan est entré en lui, verset 27. Comme auparavant, lorsqu'il s'est entendu avec le Sanhédrin pour trahir, on peut bien dire, Jésus, Judas est ici vraiment possédé par le diable. Ayant endurci son cœur envers Jésus, il se fait entièrement l'outil du malin. La condamnation éternelle de Judas est désormais entamée et il n'a pas intérêt à laisser traîner les choses. En fait, Jésus souhaite simplement que le complice de Satan quitte la chambre haute pour lui permettre de finir le repas pascal avec ses vrais disciples. Et voilà pourquoi il ordonne à Judas d'agir promptement. Il sait exactement comment il va s'y prendre, car Judas n'ignore pas que Jésus a pour habitude d'aller prier avec ses disciples à Gethsémané, Saint Jean chapitre 18, verset 2. Donc, désormais, ce dernier repas pascal marquera l'institution de l'ordonnance de la nouvelle alliance qui est connue sous le nom de la Sainte Cène. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je répète parce que c'est très important pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller dans une église. Donc pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc, après avoir chanté les cantiques, ils se sont rendus à la montagne des Oliviers. Saint Matthieu chapitre 26, versets 26 à 30. Nous continuerons notre étude demain matin, Dieu voulant. Et maintenant, prions tout simplement. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ton salut. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière et marchons honnêtement comme en plein jour. Ô soleil levant, splendeur de l'éternelle clarté, soleil de justice, viens, illumine ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Le Seigneur sait, il est maintenant avec nous et avec notre esprit. Amen. Amen. Et chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série.